Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
French Days Zalando.
French Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. Des promos jusqu'au 9 mai avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détail de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
French Days sur Zalando.
Bah voilà.
Vous êtes sur Fun Radio, il est 20h.
Parlons vrai.
Dans un instant, le meilleur de Sud Radio, mais d'abord, les informations, Florian Laffont, bonsoir.
Bonsoir. L'exécutif veut durcir les règles pour l'accès au logement social. Dans un projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, le gouvernement prévoit notamment un durcissement des conditions pour les locataires les plus aisés, dont les revenus dépassent un certain plafond. Une mesure décriée par la gauche et par plusieurs associations. On rappelle qu'en France, 10 millions de personnes vivent dans un logement social. La grogne continue pour les étudiants pro-palestiniens. Ils étaient 200 cet après-midi réunis à Paris, place du Panthéon, pour dénoncer la situation à Gaza et pour protester contre les évacuations des universités. Un peu plus tôt, 91 étudiants qui occupaient Sciences Po Paris ont été évacués par la police à la mi-journée. Même chose à Sciences Po Lyon. Le corps d'une femme retrouvée aujourd'hui dans une chambre d'hôtel à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque. Elle aurait été tuée après avoir subi des violences conjugales. Son compagnon a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide a été ouverte. Le trafic a été perturbé aujourd'hui sur le RERC en région parisienne. En cause, une voiture qui circulait sur un pont à Choisy-le-Roi a percuté les barrières de sécurité avant de faire une chute de 5 mètres et d'être percuté par une rame. Le conducteur de 18 ans a été grièvement blessé. Il a été conduit à l'hôpital par les pompiers en état d'urgence absolue. Après presque un mois d'interruption, les négociations entre l'assurance maladie et les médecins libéraux reprendront le 16 mai prochain. Ils vont tenter de tomber d'accord pour revaloriser la rémunération des praticiens en échange d'engagements collectifs pour l'accès aux soins. La France gagne 3 places dans le classement de la liberté de la presse et pointe désormais au 21e rang selon Reporters sans frontières. A noter que pour la 8e année consécutive, la Norvège est à la première place. Et puis un mot de football pour finir, l'UEFA a tranché. Chaque équipe nationale pourra sélectionner non pas 23 mais 26 joueurs pour l'Euro qui commence le 14 juin. Didier Deschamps dévoilera lui sa liste des Bleus le 16 mai prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à notre écoute.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Soyez les bienvenus, vous êtes sur Sud Radio, parlons vrai, comme chaque soir, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono. On retrouve tout de suite la première partie du débat avec Jean-Jacques Bourdin.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Brevet, bac, quelle est la valeur réelle de ces diplômes? Si je vous parle de ça, c'est parce que nous sommes en fin d'année, que dans beaucoup de lycées, les bacs blancs sont là pour préparer le bac, que le brevet se prépare aussi en ce moment, que nous allons entrer dans la période d'examen. Je vous pose cette question, et je pose cette question parce que le ministère de l'Éducation nationale a récemment confirmé que le taux de réussite aux examens était gonflé artificiellement. Alors, nous avons avec nous deux intervenants par ordre alphabétique. Martin Andler, qui est professeur émérite de mathématiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin, fondateur de l'association Animat. Bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
D'être avec nous. Merci. Guillaume Prévost est aussi avec nous, délégué général de Vers le Haut. C'est un think tank dédié aux jeunes et à l'éducation. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, est-il vrai que les taux de réussite aux examens bac-brevet sont gonflés artificiellement? C'est vrai ou c'est faux, Martin?
Enfin, ils sont très élevés.
Ils sont très élevés.
Ça, c'est clair. Non, on est tous d'accord, ils sont très élevés. Est-ce qu'ils sont gonflés artificiellement? Pour moi, d'une certaine manière, c'est une question qui n'a pas de sens.
Allez-y.
Les, si on a transformé le baccalauréat en quelque chose de complètement différent de ce qu'il était jadis, voilà. Mais sans le dire.
C'est-à-dire c'est plus le même examen. Quoi.
C'est plus le même examen. Alors déjà, on a énormément augmenté l'accès au baccalauréat, hein, oui. Puisque pour des gens qui auraient 90 ans aujourd'hui, l'accès au baccalauréat, c'était 5% d'une classe d'âge, et aujourd'hui, c'est 80% d'une classe d'âge. Donc être bachelier, quand on a 90 ans, c'est faire partie d'une petite élite de la société française aujourd'hui.
Il y a 90 ans, un bachelier faisait partie, enfin il y a 70 ans, ou 68 ans, ou 72 ans, un bachelier faisait partie de l'élite.
De l'élite, clairement. Hein, oui. D'ailleurs, un instituteur n'avait comme baccalauréat, comme diplôme le plus élevé, un baccalauréat. Et un instituteur dans son village était un notable, parce que c'était quelqu'un de très diplômé par rapport à la moyenne. Aujourd'hui, évidemment, tout la situation est très différente. Évidemment, ça a changé dans tous les pays. Donc, la France ne fait absolument pas exception.
Oui, là-dedans. Ça a changé partout.
Ça a changé partout. Là où on a probablement une question qui est plus une question d'orientation, c'est qu'il y a aussi un principe qui a été inscrit dans la loi ou dans les usages, c'est qu'un bachelier a automatiquement accès à l'enseignement supérieur. Mmh. Et ceci est étendu non seulement aux bacs généraux qui existent depuis la nuit des temps, mais aux bacs technologiques qui existent depuis 50 ans, aux bacs professionnels qui existent depuis un peu plus de 30 ans. Alors que les bacs technologiques et les bacs professionnels ne sont pas, les cursus ne sont pas, ne préparent pas les élèves à faire des études générales à l'université. Donc on a changé le baccalauréat, quand Chevènement a créé l'idée de 80% de la classe d'âge, mais il était clair pour lui, c'était une partie, c'était des bacs généraux qui avaient vocation à continuer leurs études, et une partie, c'était des bacs technologiques qui devaient rentrer dans des filières courtes. Donc il n'était pas complètement, c'était pas complètement délirant son truc.
Oui.
Mais là, maintenant, il y a une grosse confusion, et il y a beaucoup de bacheliers professionnels qui vont à l'université, par exemple, et qui se plantent. Et il y a beaucoup de bacheliers généraux qui ont obtenu des bacs de justesse et qui ont de très très grosse difficulté à l'université.
Évidemment,
donc c'est plutôt ça la difficulté.
Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors, je pense qu'il faut reprendre un peu de recul, parce que quelque part, on a une approche par le diplôme, mais en vue de quoi on se diplôme ? La majorité des gens font des études supérieures, ont un diplôme en vue d'accéder à une position sociale. Et la façon dont on accède aujourd'hui aux positions sociales, notamment les plus valorisées dans la société, a complètement changé. Puisque quand vous aviez 5% d'une génération qui allait au baccalauréat, la sélection sociale, elle se faisait majoritairement hors de l'école. Dans une école qui voit maintenant passer l'ensemble d'une génération, un baccalauréat qui voit passer 80% d'une classe d'âge, hors de l'école, point de salut, j'ai envie de dire. Donc si vous voulez un métier bien payé et pouvoir fonder une famille, acheter une maison, il faut avoir un diplôme. Donc le rapport au diplôme a complètement changé pour les familles françaises.
Oui, mais attendez, dans les familles, le bac reste le bac. C'est-à-dire que quand un enfant passe le bac, s'il l'obtient, tout le monde est heureux. Comment voulez-vous ? Il garde de ce bac.
Parce que le symbole...
Ce bac qui est dévalorisé, mais il ne l'est pas dans le cercle familial. Le symbole reste très fort.
Culturellement, nous sommes très attachés en France au diplôme, parce qu'on a en tête Marcel Pagnol, Albert Camus, l'enfant de la rue qui sort par ses études, repéré par son instituteur, conduit au lycée. Mais donc, ce symbole reste très fort pour les Français, pour les Français des générations précédentes, j'ai envie de dire. Mais pour les jeunes aujourd'hui, les jeunes, la génération Covid, ils savent qu'un bac, aujourd'hui, ça sert à rien.
Ils sont quand même heureux de l'avoir.
Bien sûr, oui, quand même, d'ailleurs.
Ils sont heureux de l'avoir, de l'obtenir.
Vous savez, quand il y a 80, dans un bac général, il y a plutôt 93 ou 14% de réussite au bac. Oui. Si on n'a pas le bac, on est un peu mal quand même.
En plus, on est mal,
Là, il y a quelques chiffres quand même.
C'est 2 ou 3 élèves par classe qui sont en danger, etc. Mais ça a une conséquence et qui est vraiment, elle, très problématique. Si vous, à une époque où il y avait 70% de reçus au bac, ça veut dire que dans une classe de terminale, à peu près la moitié des élèves étaient à peu près sûrs d'avoir le bac et la moitié des élèves n'étaient pas sûrs d'avoir le bac parce que c'était dur. Aujourd'hui, où c'est 92 ou 93% de reçus au bac, la très grande majorité des élèves sont quasiment sûrs d'avoir le bac, sauf s'ils sont malades ce jour-là. Et il y a une toute petite minorité d'élèves qui sont pas sûrs de l'avoir. Et du coup, il n'y a pas de pression.
Oui, il n'y a pas de pression. Mais aujourd'hui c'est la mention presque qui a remplacé le diplôme.
C'est
la mention, c'est en fonction.
Oui.
C'est la mention.
Oui, sauf que c'est pas le bac.
Sauf que c'est pas le bac. Moi, alors, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, 95%... Attendez. 2023, 95,7% de réussite au bac général. Est-ce que ça dévalorise le diplôme ou pas ?
Moi, je pense que ça le dévalorise clairement dans la mesure où on a un diplôme pour se distinguer de sa génération. En fait, si vous avez le même diplôme que tout le monde, bah, votre diplôme, il vaut pas plus que celui des autres.
Oui, vous l'avez.
Quand vous aviez le certificat d'études en 1910,
oui.
Où moins de 20% d'une génération avait le certificat d'études, bah, évidemment, vous faisiez partie des 20% reconnus comme tels, etc. Aujourd'hui, il est même plus question du certificat d'études. Aujourd'hui, vous avez le brevet, vous êtes considéré comme non diplômé si vous avez le brevet. Donc, en fait, tout ça est relatif. Ce qui est rare et cher, et ce qui est ce que tout le monde a, est évidemment moins de valeur. Maintenant, le sujet, c'est moins le baccalauréat que l'accès aux études supérieures. Aujourd'hui, les familles, elles se mettent pas la pression sur la préparation du baccalauréat. Par contre, elles passent un an à préparer Parcoursup, parce que
ça c'est vrai.
Ça c'est un sujet d'angoisse pour toutes les familles.
C'est un truc de fou.
Parce que vous avez cette boîte noire qui vous dit est-ce que je vais avoir mon BTS, ma classe prépa, mon entrée à la faculté. Donc en fait, le tri, il s'est déplacé, il a plus lieu au niveau du baccalauréat, il a lieu dans les 3 années qui suivent le baccalauréat. Et s'il y a 90% de réussite au baccalauréat, ben, il y a 60% de réussite en première année de licence. Donc ça veut dire que globalement, quand vous rentrez à la faculté, vous avez un tiers qui passe, un tiers qui redouble, un tiers qui abandonne. Et en fait, donc ça veut dire que le tri qui avait lieu au baccalauréat, il a lieu et il est géré par les universités.
Oui,
au prix d'une
carte qui est considérable. Vous êtes d'accord
Oui, oui et non, parce qu'il y a quand même les universités ne recueillent pas tous les étudiants. Il y a beaucoup d'autres voies dans l'enseignement supérieur. Il y a les classes préparatoires, il y a les IUT, il y a les BTS, il y a les instituts d'études politiques. Donc il y a des voies sélectives, soit des voies sélectives élitistes comme les classes préparatoires, les IEP, etc., soit des voies qui sont sélectives mais qui ne sont pas élitistes comme les IUT ou les BTS, qui forment en principe pour des études courtes, mais c'est des voies, ce sont toutes des voies sélectives. À l'intérieur des voies généralistes, que ce soit classe préparatoire, IEP ou l'université, la majorité des très bons étudiants vont en classe préparatoire. Et là, il y a un tri qui est absolument redoutable et qui est extrêmement déterminé socialement.
Ça a toujours été le tri en classe préparatoire.
Ça a toujours été, mais effectivement, ça a toujours été.
Mais c'est 50 000 étudiants.
Oui, c'est 50 000 étudiants.
L'université, c'est 300 000.
Combien ?
300 000.
Au moins.
Par génération.
Par génération. Donc c'est l'université accueille la plupart des étudiants, enfin une grande majorité des étudiants, et elle doit accueillir des étudiants qui sont moins bien préparés
Est-ce qu'on a une idée, est-ce que des études ont été faites sur justement tous ces jeunes qui ont obtenu le bac les filières suivies ensuite?
Ah oui, il y a une étude qui est remarquable.
Oui.
Et qui est vraiment, à mon avis, l'étude de référence qui est produite par le CEREC, centre d'études sur les parcours professionnels.
Et les qualifications, le CUP,
Génération. Et qui, en fait, c'est intéressant parce qu'on a souvent des études en fonction de l'année de naissance. Ça, c'est l'année à laquelle ils ont quitté le système scolaire.
Oui.
Donc, si vous prenez en 2017, les jeunes qui ont quitté le système scolaire, enfin, dans sa globalité en 2017, qu'est-ce qu'ils sont devenus 3 ans après? Et ça, c'est très intéressant ce que nous disent les chiffres parce que, globalement, une génération, c'est 800 000 personnes. Donc vous avez 100 000, pas de diplôme, échec scolaire. 100 000, hein, 15%
d'une
génération.
100 000 sur 800 000, voilà.
100 000 sur 800
000, pas de diplôme, échec scolaire.
Pas de diplôme, échec scolaire. 100 000, CAP inférieur au baccalauréat. CAP, ex-BEP, certification professionnelle. 100 000, baccalauréat. Vous êtes à 300 000, 150 000 à peu près. Et vous avez tout baccalauréat.
Oui.
Tout général, technologique. Titulaire d'un baccalauréat seul. Et vous avez 400 000, donc la moitié d'une génération titulaire d'un diplôme du supérieur. C'est colossal. Et là, la France se distingue. Excusez-moi, parce que vous avez raison, le niveau de diplôme a monté dans tous les pays européens.
Vous avez 400 000 jeunes qui obtiennent un diplôme
du supérieur.
Du supérieur.
C'est la moitié d'une génération.
Alors, c'est un diplôme universitaire.
Un BTS, un BTS, universitaire. Quand même, c'est énorme, non ?
C'est colossal. Et la France se distingue. Alors d'abord, la moyenne européenne, c'est 42%. La France est à 52. Donc en fait, la France est au-dessus, très au-dessus de la moyenne européenne. Et seconde, la France se distingue.
Ça veut dire qu'on privilégie les diplômes universitaires ou les diplômes en France, ça veut plutôt dire qu'en France, les filières professionnelles.
Alors il y a eu, ce qui se passe, c'est intéressant parce que il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, c'était pas le cas. On était plutôt en arrière par rapport à beaucoup de pays. Maintenant, oui, effectivement, on a plus de diplômés que... On a plus de diplômés que d'autres pays.
Mais parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, la France avait un taux de chômage colossal des jeunes, 25% de chômage des jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis les jeunes à l'université pour pas qu'ils soient au chômage. En fait, on a choisi massivement d'envoyer des jeunes qui n'étaient pas préparés pour les études supérieures dans les études supérieures pour les sortir des chiffres de Pôle emploi. C'est exactement le choix qui a été fait au début des années 80. Donc maintenant, on se retrouve avec des diplômés à plus savoir qu'en faire.
C'est vrai.
La moitié d'une génération qui se retrouve avec un bac plus 5 à faire des PowerPoint dans des boîtes de conseil, et on n'a plus d'ouvriers, on n'a plus de techniciens qualifiés.
On manque de main d'œuvre.
On ne sait plus recruter des personnels qualifiés à bac plus 2. Vous voyez, moi j'ai travaillé longtemps dans la Marine nationale. La Marine nationale, elle ne sait pas où recruter des bac plus 2 pour conduire ses sous-marins. Elle ne sait pas comment faire, c'est une grosse difficulté.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après, les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins et le surlendemain, à leur mettre une baffe et le sur-surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono que vous pourrez retrouver également tous les jours sur sudradio.fr. La suite des débats avec Jean-Jacques Bourdin.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Martin Andler, sur ce que vient de dire Guillaume
Je voudrais un petit peu, d'abord, la situation des diplômés universitaires n'est pas aussi catastrophique que celle que décrit mon camarade. Oui. En fait, le taux d'insertion n'est pas si mauvais que ça. Et y compris des diplômes universitaires. L'université a une image dégradée, alors qu'en fait, les gens qui font des études à l'université s'en sortent plutôt bien.
Oui.
Donc,
Dans la vie professionnelle, ils s'en sortent plutôt bien.
Même dans leurs études, un taux d'échec assez important, mais les gens retombent sur leurs pieds de différentes manières, etc. Puis ensuite, il y a une insertion professionnelle qui est relativement bonne. Alors ensuite, il y a une question, c'est de savoir quelles études on fait. En ce moment, il y a certainement beaucoup de diplômés en sciences humaines et sociales dans des filières qui ont des débouchés qui sont relativement incertains. Donc ça correspond à cette image un peu caricaturale qu'il a donnée des masters, des gens qui ont des masters et qui trouvent pas de boulot, qui ont des boulots absolument sous-qualifiés.
Dévalorisés.
Il y a insuffisamment de diplômés dans les disciplines scientifiques et techniques.
Oui.
Et puis, il y a aussi un deuxième élément, c'est qu'il y a certainement insuffisamment de diplômés dans les filières techniques, technologiques, donc au niveau BTS, etc. Mmh. Par exemple, au niveau... Mmh. On sait qu'un des problèmes de la filière nucléaire française, qui a des tas de problèmes, c'est le manque de soudeurs de très bonne qualité. Donc ça, ce serait plutôt des gens qui ont des BTS.
Oui.
Ça, on en manque. Et on a probablement trop d'étudiants qui ont fait des études de sciences humaines et sociales. Moi, je fais aussi de l'histoire des sciences. Je suis à fond pour, et Guillaume aussi. Donc, on est d'accord pour dire que c'est important. Mais cela dit, les capacités d'absorption du système ne sont pas illimitées.
Alors, messieurs, quand même. Je parlais du bac dévalorisé. Enfin, Parcoursup ne tient pas compte des résultats du bac. C'est quand même extraordinaire, non ? Une incongruité.
C'est un peu une... Enfin, effectivement, c'est une incongruité. Du coup, le baccalauréat ne joue aucun rôle dans cette orientation.
Aucun rôle.
En Allemagne, par exemple, l'abitur joue un rôle. C'est-à-dire, dans les filières dans lesquelles il y a une pression sélective, il faut avoir une bonne note à l'abitur. C'est 1 ou 1,2. C'est dans l'autre sens. 1 est la meilleure note. En Angleterre, il y a une sélection qui se fait avant, mais les élèves doivent confirmer leur inscription en ayant obtenu au A-level des notes suffisantes. Et puis en France, on n'a pas ça.
Puisque vous parlez de l'Angleterre, je vais vous citer le cas de mon fils, qui a 17 ans, qui passe le bac cette année, qui a été admis dans une célèbre école à Londres Université qui s'appelle King's College. Eh bien, King's College ne le prendra que s'il a 16 de moyenne au bac. Sinon, pas question. Donc, ils tiennent compte à l'étranger du baccalauréat. Et nous, en France, on ne tient pas compte du baccalauréat. C'est quand même un comble, non ?
Il faut quand même, parce que tout le monde a l'idée du baccalauréat, l'examen, les nœuds dans le ventre le matin, le résultat. En fait, le baccalauréat aujourd'hui, c'est largement du contrôle continu. Donc en fait, le baccalauréat, un bon élève, il a, à l'ascension, maintenant, là, il a déjà son baccalauréat. Oui. Donc, en fait, l'examen en lui-même, en plus vous avez des épreuves anticipées, les épreuves anticipées de français en première, les épreuves anticipées les deux spécialités qui ont lieu là en ce moment. Oui. Et donc, en fait, l'examen, le symbole de cet examen final, en fait, il est là essentiellement pour le symbole. Ouais. La vérité, c'est
Ce n'est plus qu'un symbole, alors.
Le problème, c'est que quand vous avez 90% de réussite aux filières générales et que vous avez 60% de réussite en première année de licence, à quoi ça sert, le baccalauréat ? En fait, si ça consiste à envoyer massivement des jeunes mal préparés en situation d'échec en première année, vous avez raison, la plupart,
un
tiers redouble, un tiers abandonne, un tiers... Mais il y a quand même de la casse.
On perd du temps.
En plus, à des années, 20-25 ans, tous ceux qui ont eu 20 ans un jour savent que c'est des années décisives dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc, on met les jeunes massivement en situation d'échec pour une seule raison, qui est celle de conserver le symbole du baccalauréat totem des familles. Et là, il y a un problème.
Pour le brevet, quelques mots sur le brevet, puis on parlera des professeurs. Quelques mots sur le brevet. Suppression du correctif académique pour les notes du brevet, c'est la volonté du Premier ministre. Oui, non. C'est important, ça. Parce que là aussi, on augmentait les notes au brevet.
Alors, sur le brevet, vous voyez, là, on a parlé de baccalauréat, on a parlé du supérieur. Oui. Le sujet... Le mot a été lâché, Martin, vous avez tout à fait raison, c'est la sélection. Comment on sélectionne et comment on fait pour que cette sélection soit la plus juste possible. Mais on a besoin de sélectionner. Le brevet, c'est pas du tout ça. Si vous me permettez, l'instruction en France est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc un enfant, au lieu de se dire il faut 80% de réussite au baccalauréat, nous devons avoir 100% de réussite au brevet, puisque le brevet sanctionne l'instruction obligatoire. Ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas eu son brevet... Si on prend les choses au bout, ça veut dire qu'il n'est pas en mesure de remplir son rôle de citoyen dans la société française. Donc en fait, le brevet n'est pas un diplôme sélectionnant. Le brevet, c'est la fin des études obligatoires que tout Français doit maîtriser, puisque c'est les fondamentaux qui lui permettent d'exercer sa vie de citoyen dans une démocratie éclairée.
Je comprends.
Donc le brevet est un vrai sujet. Je pense qu'on le passe trop souvent sous silence. On devrait... Laissez un peu ce baccalauréat qui finalement...
Tout le monde pense que ça ne sert à rien.
Mais le brevet, c'est essentiel. C'est peut-être le diplôme qui est le plus important pour notre société. Mais c'est un diplôme dont la fonction n'est pas de distinguer, mais c'est un diplôme dont la fonction est de construire la société de demain. Donc c'est peut-être le plus important, surtout du point de vue politique.
Je comprends. Mais on peut aussi raisonner sur le brevet, sur le baccalauréat. C'est-à-dire qu'il y a un diplôme à deux fonctions. D'entériner la fin d'un cycle avec un certain taux de réussite, et puis d'ouvrir la voie au cycle suivant.
Oui.
C'est pas la même chose.
Oui. Hein,
par exemple, clairement, on sait qu'un bachelier général qui a eu mention assez bien ou plus a un taux de réussite à l'université très élevé. En tout cas, s'il ne s'est pas réorienté dans une autre discipline. Donc, la mention a une signification, les notes du bac ont une signification. Simplement, la règle, c'est que tout bachelier doit avoir accès à toute étude supérieure. Et là, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un taux de réussite au baccalauréat élevé, mais qu'en revanche, dans l'entrée du cycle suivant, que ce soit le cycle licence ou après dans le cycle master, là, on tienne compte du niveau de performance, d'assimilation, de manière différente. C'est pas la même chose.
Bon. Alors, en ce qui concerne le niveau des professeurs, nous avons 2 minutes 15, c'est pas long, mais j'ai vu que le niveau des épreuves de CAPES de mathématiques... de mars dernier a suscité de vives réactions. Vous aussi, vous avez réagi ?
Écoutez,
le niveau était trop bas ?
La réalité, c'est que la profession n'est pas attractive.
Oui.
parce que pour des tas de raisons. Une d'entre elles, c'est que les professeurs, surtout en début de carrière, sont extrêmement mal payés.
Oui, ça c'est sûr.
Que les gens qui ont des compétences dans les sciences dures peuvent facilement accéder à des métiers qui sont bien, bien mieux payés.
Bien sûr, dans le privé.
Dans le privé ou même dans le public, hein, des métiers bien bien mieux payés et en plus quand on devient prof, on a des chances de faire son début de carrière dans des postes qui sont extrêmement difficiles où on devrait mettre des professeurs plus expérimentés. Donc tout ça décourage. Le fait est, c'est qu'on a très très peu de candidats au CAPES de mathématiques. Alors ensuite, le choix de la puissance publique, il faut bien comprendre, c'est ou bien on n'accepte pas ses étudiants et à ce moment-là, on n'a pas de professeur en face des élèves, ou bien on doit accepter des candidats dont le niveau est peut-être insuffisant, mais au moins on a des profs devant les élèves.
Oui, vous êtes d'accord?
Moi, je reviendrai sur ce qu'on a dit.
Il y a quand même des élèves parfois qui sont plus forts que leurs professeurs en mathématiques. Hein. Ça arrive.
Oui.
Ça, vous avez rencontré cela? Non, mais parce que vous êtes très fort, vous.
Écoutez, je pense que quand j'étais en terminale, j'ai eu des stagiaires de CAPES, et je pense que j'étais plus fort qu'eux, mais oui. Mais ils en savaient beaucoup plus, évidemment. Mais...
Qu'est-ce qu'on attend d'un professeur?
Fort en quoi? Oui.
On n'attend pas la même chose.
Moi,
de
j'étais un petit con fort en maths, et eux, c'était des adultes avec une expérience de gestion de classe et de choses comme ça.
Quand vous allez à l'université, vous avez un prof d'université comme Martin Andler, vous voulez un spécialiste, un expert, et s'il vous regarde de haut, et s'il vous parle pas, et s'il vous ignore, c'est pas très grave, parce que ce que vous attendez de lui, c'est d'abord son expertise. Mais quand vous êtes en quatrième, vous n'êtes pas très bien dans votre peau, que vous vous demandez ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin, c'est pas d'un spécialiste de mathématiques, d'histoire géo ou de français. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un éducateur avec un peu de charisme, qui ait le sens de la relation, qui sache parler à vos parents, qui sache gérer des projets pédagogiques. Donc encore une fois, si le but de l'instruction obligatoire, c'est jusqu'en troisième, c'est de former des citoyens, on n'a pas besoin de CAPES de mathématiques. On a besoin de bons enseignants,
de bons pédagogues,
de gens qui aient le sens de la relation, de gens qui aient des idées un peu claires sur le développement cognitif de l'enfant, sur les difficultés de l'adolescence, etc.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Est-ce qu'on marche sur la tête dans la préparation des JO de Paris? La répétition de la cérémonie d'ouverture est reportée à cause de la crue de la Seine, parce que le niveau du fleuve est trop haut pour assurer normalement le passage des ponts. Après la baisse de moitié de la jauge des spectateurs et beaucoup de remises en cause, on ne peut pas dire qu'on marche sur l'eau pour la préparation de ces JO de Paris.
Sud Radio, parlons vrai.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne!
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479 €, soit 70 € d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3 800 €.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur Conforama.fr.
Sud Radio Béziers.
104.7.
Sud Radio.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée sur Sud Radio, parlons vrai, comme chaque soir, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono pour ne rien rater. Tout de suite, nous retrouvons André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Petit pauvre d'Alger, à Paris, naufragé, l'homme épuisé de femmes, de soleil et de larmes. Toi l'homme révolté, par la misère hanté, qui préféra ta mère à la justice amère. Au Camus je te pleure, mon héros tu demeures, toi qui es mort d'un Dostoïevski dans le cœur.
Albert Camus, cet immense écrivain qui vous a passionné dès l'enfance, Hubert Védrine.
Salué ici par Serge Lama.
Exactement, sublimement salué par Serge Lama. Hubert Védrine, sur votre passion ne vous a jamais quitté. Alors bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio.
Bonjour.
Jusqu'à 14h. Alors vous publiez chez Plon, Camus, notre rempart, un livre hommage très émouvant que vous introduisez par ce flash spécial que vous aviez entendu à la radio le 4 janvier 1960. À l'époque, vous aviez à peine 13 ans.
C'est de cet amas de ferraille que l'on a retiré le corps d'Albert Camus, coincé entre le tableau de bord et le dossier de son siège, d'Albert Camus qui avait été tué sur le coup. De la manière dont a été disloquée la voiture, on se rend parfaitement compte de la puissance du choc. On a retrouvé des parties de la machine à plusieurs dizaines de mètres du lieu de l'accident. Et Mademoiselle Galimard a été projetée de l'autre côté de la route, agrippée à son coussin, ce qui lui a valu d'avoir la vie sauve. Son père, Michel Galimard, qui était au volant, souffre de plusieurs fractures du crâne. Une roue avait, paraît-il, éclaté. La voiture marchait à grande allure. Quoi qu'il en soit, le bilan est tragique et il a causé dans notre région un émoi considérable.
Et oui, malheureusement, Michel Galimard donc, n'a pas survécu à ses blessures, Hubert Védrine. La mort de Camus a été un choc pour vous ?
Alors d'abord, j'étais ému tout à l'heure d'entendre la voix de Camus, parce qu'avant le choc de la mort que je raconte, c'est le début du petit livre, là, très, très personnel, que j'ai écrit. Mes parents m'avaient offert un disque après qu'il eut le Nobel. Il y avait un disque dans lequel il y avait des textes de Camus, des textes du Parigiani, des textes des pièces de théâtre, des morceaux de pièces avec Maria Cazares, avec Alain Cuny, enfin des gens comme ça. Donc j'avais déjà là, cette voix si particulière, nasillarde, dans l'oreille, et déjà une passion. Et on avec quelques amis, on écoutait le disque sans arrêt, et j'en connaissais au moins 20 à 30 pages par cœur, en fait, de l'étranger, et de choses comme ça. Ce qui fait que quand arrive le choc, c'est quelqu'un auquel j'ai déjà développé une relation personnel, si je peux dire, à distance.
Oui, alors que vous étiez enfant, encore.
Oui, je suis ado.
Ans, quoi. Oui, ado.
Je suis ado. Donc il y a ce choc, c'est le point départ de mon petit récit. Et après, j'ai continué, mais je suis entré dans le monde camusien. Alors je suis pas un expert total, parce que j'ai découvert, là, grâce à vous, la chanson de Lama, qui est magnifique. Pourtant, ouais. Je suis assez camusien par rapport à...
Bon.
Et
oui.
Donc, je suis entré.
Et adolescent, en fait, vous le dites dans votre livre, vous avez été ébloui par le Camus de l'étranger, de noces et de l'été.
Alors d'abord, c'est noces et l'été, notamment Tipaza, qui est très important pour moi, puis l'étranger. Le reste, je le découvre après.
Pourquoi Tipaza très important pour vous, Hubert Védrine ?
Écoutez, j'étais ébloui, je ne sais pas, c'est mystérieux, mais dans Noces et l'été, il y a le texte de Camus dans les essais avant la guerre, il y en a un après, retour à Tipaza. Je trouvais ça tellement beau que dès que j'ai gagné un peu d'argent de poche en donnant des cours d'histoire géo dans une boîte privée, j'ai été à Tipaza. Ouais. J'ai passé deux journées à flâner dans Tipaza. Et c'est devenu une sorte de lieu un peu emblématique, imaginaire,
ouais,
pas forcément lié à l'endroit où c'est d'ailleurs. C'est très important et je suis revenu régulièrement par rapport à ça. C'est une sorte de définition de la beauté. Alors, on est avant, je dis quelque part, j'avoue qu'on est, je rappelle qu'on est avant 68.
Ouais.
Donc on n'est pas dans une époque...
Oui, on est en 1965 exactement.
65.
Ouais.
Donc je rappelle qu'on n'est pas dans une époque de sexualité débridée, pour dire les choses directement. Donc il y a une sorte de sensualité contenue chez un jeune adolescent, et les mots de Camus, à mon avis, là-dedans, dans Noce, dans Tipaza, ont une force d'autant plus considérable qu'on est dans ce moment-là. Après, ça m'a jamais quitté. Mais j'ai reçu d'ailleurs, depuis que le livre est paru il y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai déjà reçu des petits messages de gens qui disent « Tipaza a beaucoup compté sur moi, pour moi ».
Ah oui. Et vous dites que Tipaza aura été votre colline inspirée, comme celle de plusieurs gens de votre génération, en quelque sorte.
C'est une sorte de méditation autour de la beauté, la sensualité. Bon, il y a l'écriture de Camus, il y a le Sud, il y a la Méditerranée, que j'ai découvert à d'autres endroits. Enfin, en tout cas, c'était très fort. Donc le témoignage, c'est que j'entre dans Camus, pas par le mythe de Sisyphe, pas par l'homme révolté,
pas par la philosophie,
par la sensualité,
par la sensualité, le soleil, l'Algérie,
et
la beauté, absolument.
Et oui, il faut dire que...
Bon, l'étranger, c'est vrai aussi, mais quand je le relis maintenant, je le dis, c'est la limite de la provocation, mais je dis, c'est un drame de la canicule, en fait. quand on lit L'Étranger aujourd'hui. L'impression de chaleur accablante, sans arrêt.
Un drame du réchauffement climatique, c'est ça ?
C'est avant le réchauffement. Donc vous voyez, c'est encore pire après.
C'est encore pire après.
Alors justement, vous parliez effectivement de ce disque que vous écoutiez sans relâche quand vous étiez adolescent. Écoutons un extrait où Camus lit des pages de L'Étranger.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2h. Il faisait très chaud.
Très très beau, c'est le début, Hubert Védrine, c'est le début.
Oui, c'est le début.
C'est tout à fait le début et c'est fabuleux d'ailleurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit aujourd'hui, on peut le citer, combien par exemple un Kamel Daoud qui est éditorialisé dans Le Point, au jour à l'hebdomadaire, est inspiré de Camus. Enfin, il a fait d'ailleurs une espèce
de...
J'ai
parlé avec lui.
Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, effectivement, oui.
Et vous savez, dans le texte qu'on vient d'entendre, donc c'est le cas dans toute l'écriture de Camus, il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot à enlever. C'est très rare, ça. D'où la force, à mon avis.
C'est l'écrivain. Alors,
dans la suite de l'affaire d'Étranger, après l'assassinat de l'Arabe sur la plage, je dis l'Arabe parce qu'il n'a pas de nom, précisément, et certains lui ont reproché, sur la plage, le procureur qui va réclamer la peine de mort va se servir de ça pour montrer l'insensibilité monstrueuse du personnage qui est Meursault par rapport à la mort de sa mère.
Oui, et c'est fabuleusement écrit, et c'est vrai, c'est magnifique. Et la chose la plus importante, je trouve, c'est quand vous dites on a pénétré, et c'est vrai, vous avez connu Camus par la sensualité, par le soleil, par la plage, par la mer, et lui, au fond, quelque part Hubert Védrine, c'est que toute la philosophie, c'est ce qui le différencie de Sartre, mais de beaucoup d'autres, il a été marqué par ça, c'est-à-dire si c'était pas un terrien méditerranéen, il n'aurait pas écrit les mêmes choses, et pensé les mêmes choses.
Oui, et on peut ajouter que s'il n'était pas d'une famille ultra pauvre, vraiment pauvre, un point inimaginable, vraiment les pieds noirs basiques arrivaient de Minorque, avec une grand-mère et une mère analphabète. C'est dingue, il y a eu le prix Nobel après. Ouais. Donc il y a tout cet élément-là.
Même sa mère était analphabète.
Elle était à moitié, puis elle était à moitié sourde. Enfin bon, il y a quand même des handicaps incroyables jusqu'à ce qu'un personnage merveilleux auquel il va dédier le discours de Chouet du prix Nobel, Monsieur Germain, l'instituteur. C'est extraordinaire, c'est l'instituteur.
Les hussards noirs de la République.
Et il va détecter chez le jeune Albert, qui veut surtout faire du foot, en fait, avec ses copains dans la rue, détecter un don, une capacité. Il va essayer de convaincre la grand-mère, qui est une femme dure, une espèce de paysanne, qui a le plus grand mal à nourrir la famille. Donc il va essayer de convaincre la grand-mère qu'il faut qu'elle accepte la bourse qu'il a trouvée pour ce jeune garçon. Elle a dit oui, mais il est déjà employé dans la quincaillerie, puis on a besoin de son argent. Vous savez, c'est comme dans les vies paysannes, ça.
Eh bien sûr.
Donc le rôle de Germain, c'est incroyable quand on pense
Il lui a changé la vie.
Complètement. C'est magnifique.
Alors, à l'adolescence.
Donc il garde ça tout le temps. Et quand il y aura les débats dans le Paris féroce d'après la guerre, le Paris très très progressiste, il y aura toujours cette dimension. Moi, je suis d'origine pauvre en vrai. D'ailleurs, dans la polémique avec Sartre, où je trouve Sartre effrayant, mais il est toujours brillant, brillantissime, mais effrayant.
Bien sûr.
Il lui dit, vous avez peut-être été pauvre, mais vous ne l'êtes plus. Enfin, ça joue un rôle, hein.
En fait, Camus, Hubert Védrine, c'est le contraire de ce qu'on appelle aujourd'hui les bobos gauchos.
Le contraire absolu, oui.
Les antipodes.
Oui. Alors, à l'adolescence, vous êtes, on l'a dit il y a quelques instants, vous êtes surtout intéressé au Camus, donc écrivain. Qu'est-ce qui fait, vous qui rêviez de devenir journaliste, vous ne vous êtes pas intéressé justement au Camus, journaliste, engagé et très courageux, surtout l'éditorialiste qu'il a été ?
Bah, je l'ai découvert après, mais vous savez, j'ai eu ce flash, coup de foudre en quelque sorte. Puis après, la vie continue. Hein. Faut préparer les examens, le bac, entrer à Sciences Po, faire des voyages. J'ai rêvé de voyages sans arrêt, donc c'est toujours en fond de ma propre vie après. Mais la vie galope. Et donc je ne me suis pas interrogé sur le Camus journal à ce moment-là. Mais quand j'ai revu, après, quand j'ai relu de ce qu'il écrit et tout ce qu'on a écrit sur lui, c'est là où j'ai vu que, par exemple, le reportage sur la misère en Kabylie était un élément fondamental.
Ah oui, c'était en 39.
Ouais. Voilà. 39, ouais.
Et il a vu la vraie misère, donc il n'oubliera jamais ça. Donc il sera toujours de, quelle que soit la violence de l'affrontement avec le clan progressiste, on va dire, il sera toujours de gauche de cette façon-là.
Est-ce qu'on peut comparer, et attention, comparaison n'est évidemment pas raison, le retour à Tipaza de 52 de Camus avec le retour du RSS de Gide?
Non, parce qu'il n'y a pas la dimension politique, ça n'a pas les mêmes conséquences, et ce que dit Gide a une importance énorme par rapport à une époque où c'est tout à fait impossible de critiquer l'URSS, de dire qu'il y a des goulags, enfin le mot apparaîtra après avec Solzhenitsyn, donc ça n'a pas la même importance, mais il y a un côté, la guerre est passée par là. Entre le Tipaza d'avant la guerre et puis le Tipaza d'après, Tipaza sous la pluie entouré de barbelés, c'est pas le même monde, même si ça joue un rôle dans le cœur de Camus. Donc on peut pas comparer les deux. En revanche, quand il y aura le débat, lui contre Sartre, et que Camus dira dans L'homme révolté, on a des tas de raisons de se révolter, mais il n'empêche que ça ne justifie pas le meurtre politique. Jamais, comme dans la pièce où il met en scène l'anarchiste russe qui lance pas la bombe contre le grand-duc parce qu'il y a des enfants dans la voiture. Bon, donc il y a un élément fondamental de rupture, là, mais pas dans Retour à Tipaza.
Non, mais ce qui
vous avez la même pensée, moi.
Enfin, oui, absolument, mais ce qui est intéressant, c'est comment Camus a effectivement tout le temps, alors que la doxa progressiste au sens gauchiste du terme de l'époque était absolument prégnante, lui dit, n'oubliez
c'était
pas.
C'était plutôt stalinien que gauchiste. Hein.
Stalinien, oui, c'est vrai.
Mais on est encore sous Staline. Hein.
C'est vrai, mais enfin, les gauchistes staliniens, ça existe encore aujourd'hui. Mais
après, oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que quand il a dit, je voudrais qu'on passe un peu, quand il a dit, je n'oublie pas ma mère par rapport à la justice et sa mère, ce qui a été fondamental, ça. Parce qu'il dit la justice, c'est-à-dire, si tu avais un certain nombre de gens qui disaient, c'est ça le droit, je disais, oui, mais n'oubliez pas ma mère.
Oui, mais c'est plus conjoncturel, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais en fait, il est à Stockholm pour recevoir le prix. Et il y a le discours de Suède, et puis il y a une conférence de presse. Et là, il y a un étudiant algérien, nationaliste, qui vient l'attaquer un peu, l'agresser, parce que les positions de Camus sont pas claires du point de vue du nationaliste. Camus n'est pas pour l'indépendance de l'Algérie n'importe comment. Et il pense à ce peuple, non pas des colons. Il y a des colons, très bien, là-bas. Ouais.
Il
y a toute une population. Il y a des grands colons qui sont durs, il y a des moyens colons, et puis il y a une population basique. D'où vient sa famille? Et quand la question lui est posée, il y a du terrorisme à Alger. Il a peur que sa mère, qui vit à Alger, monte dans un tramway, soit victime d'un attentat.
Oui.
C'est là où il dit, entre la justice et ma mère, désolé, mais je pense d'abord à ma mère, en fait. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il balait la justice.
Non.
Donc il y a une interprétation exagérée de ça. Et d'ailleurs, dans un livre récent, Dictionnaire amoureux de Camus, par Mohamed Essaoui, très bien, il raconte que l'étudiant en question, après, il a pas eu le remords de ce qu'il a dit, mais il a voulu rencontrer Camus pour lui parler. Mmh. Et trop tard, Camus est mort.
Et, oui,
et donc, il a été sur la tombe de Camus à Lourmarin. Mmh.
Vous y avez été vous-même?
Oui, j'y ai été avec mon ami, mon collègue devenu ami, Joschka Fischer, le chef des Verts allemands, qui lui respectait énormément Camus comme la figure de l'antitotalitarisme à l'époque où c'était presque impossible à assumer.
Ah oui.
C'est vrai, à l'époque, il passait...
Ah oui. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez, en 2002, relu effectivement son œuvre. Il y a des textes qui vous ont particulièrement marqué.
À partir de 2002, disons.
Exactement, quand vous avez quitté le gouvernement, en quelque sorte. Les textes qui vous ont particulièrement marqué, c'est Le Premier Homme. On peut dire que ça reste son texte majeur.
Il y a des textes un peu oubliés. Enfin, l'ensemble de l'œuvre est majeur. Il y a des textes un peu oubliés, comme la préface de L'Envers et l'Endroit, qui est formidable, où il y a toute la suite. Et alors, il revient toujours à la mer. Il dit, j'ai vécu dans la misère et le soleil. On a du mal à associer les deux dans notre tête. Bon, il y a plein de textes formidables à relire ou à découvrir. Mais je trouve que le livre posthume, qui était dans la fameuse voiture qui a explosé, là, contre le platane,
lors de
qui
son accident,
le premier homme, qui a été publié grâce à Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, qui a donné son accord au bout d'un certain temps.
Et ouais.
C'est un texte magnifique, absolument magnifique, qui reprend la trame, et comment dire, ça ordonne l'ensemble de ce qu'il a dit aux différentes époques, quand il a eu sensibilité de... Il a même été membre du Parti communiste à un moment donné. Brièvement, mais il n'a pas attendu, il a compris...
Mais c'était en Algérie encore, là.
En Algérie,
c'est ça.
Avant la guerre.
Bah, bien sûr.
Avant la guerre. Il n'a pas attendu les événements qui ont amené certains autres, mais longtemps, longtemps après.
Il a entendu le rapport Khrouchtchev, etc., et Solzhenitsyn.
Il n'a pas eu besoin de ça pour sortir. Ouais. Enfin, il y a tout un itinéraire. Après, il y a toujours la famille, mais tout ça est absolument, parfaitement fusionné, parfaitement harmonisé. Les mots sont magnifiques. L'écriture de Camus, que je trouve formidable, émouvante depuis le début, est encore plus claire. Et c'est immensément... évidemment, c'est tragique qu'il soit mort si tôt. Mais il avait annoncé que c'était le début d'un nouveau cycle. Il y avait d'autres livres en préparation, bien qu'on ne connaîtra jamais. En tout cas, c'est merveilleux, ce livre.
Oui.
Donc, en revanche, ceux qui ne l'ont pas lu, ils peuvent entrer dans Camus par ce livre, à mon avis.
L'envers est...
Le premier homme.
Le premier homme, oui. En revanche, vous dites que vous avez eu du mal à re-rentrer dans la peste.
Oui, alors, j'ai lu un peu par acquis de conscience, le mythe de Sisyphe, l'homme révolté, important dans l'affaire de la polémique. Et la peste, je trouve ça bien, mais il y a un côté un peu lourd dans la peste. D'ailleurs, elle est utilisée souvent de façon un peu lourdingue dans les transpositions. Mais bon, c'est un grand texte, bien sûr. On voit bien ce qu'il veut dire, mais on peut pas non plus le extrapoler à toutes les situations de 20 ans, 30 ans, 50 ans après. Bon, c'est important, je ne néglige pas, mais j'ai pas eu la même sensibilité spontanée, même s'il y a des personnages magnifiques, comme Rieux, dans la peste.
Oui.
Juste un mot, par rapport à ça, c'est intéressant, parce que ça n'a rien à voir, mais vous voyez, vous parlez de la misère et du soleil. C'est intéressant, quand même, la chanson d'Aznavour, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Oui.
Ce qui n'est pas faux. Est-ce que Camus...
Oui, parce qu'il parle beaucoup de la grisaille de Paris. Il n'aime pas Paris, en fait.
Ah oui, il n'aimait pas. Oui.
Il n'aimait pas Paris. Hein.
Il disait déjà à l'époque, il disait Paris est sale, il y a des pigeons.
Oui, et alors il
n'aime
pas...
Dans l'étranger, oui.
Le genre d'intello progressiste d'après la guerre qui se rattrape en faisant des tonnes. Bon, il n'aime pas ça. Mais la ville, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à ça. Donc on revient toujours au soleil. C'est pour ça qu'il va,
après des années,
aboutir à Lourmarin.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono. Dès lundi, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 2 000 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. Profitez d'équipes dévouées, des clubs pour les enfants de 4 mois à 17 ans, des repas où vous n'aurez qu'à vous mettre les pieds sous la table et des animations pour tous. Bonnes vacances avec Sud Radio, parlons-vous. Vrai. Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée sur Sud Radio, parlons vrai, comme chaque soir, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono pour ne rien rater. Tout de suite, nous retrouvons André Bercoff.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Quand j'habitais Alger, je patientais toujours dans l'hiver parce que je savais qu'en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année pourtant elle persistait, juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. Ce n'est pas là un symbole. Nous ne gagnerons pas notre bonheur avec des symboles. Il y faut plus de sérieux. Je veux dire seulement que parfois, quand le poids de la vie devient trop lourd dans cette Europe encore toute pleine de son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants où tant de forces sont encore intactes. Je les connais trop pour ne pas savoir qu'ils sont la terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer.
Et oui, Serge Reggiani, André Bercoff qui lit Les Amandiers d'Albert Camus. Ce lumineux petit texte incorporé à l'été m'habite lui aussi encore. Écrivez-vous, Hubert Védrine, dans votre livre Camus, notre rempart, paru chez Plon. En fait, votre passion pour Camus ne vous a jamais quitté. Et au cours donc de votre vie trépidante, vous le racontez, des rencontres vous ont envoyé des signaux camusiens, notamment celle avec René Char. Comment vos chemins s'étaient-ils croisés ?
Eh bien, dans l'époque où je suis adolescent et on écoute le disque, Marie-Claude Billet, l'assistante de mon père. Elle est, il y a un groupe d'amis, familial, il y a tout un groupe autour de mes parents qui étaient des gens exceptionnellement accueillants, ouverts, rayonnants, tout ce qu'on veut. Et Marie-Claude en faisait partie. C'est une sorte d'amie d'enfance pour moi, une sorte de cousine, on va dire. Et longtemps, longtemps après, elle devient la femme de René Char, après d'autres péripéties. Voilà. Enfin, péripéties, le terme.
Oui. Non, mais péripéties, on veut dire. Et vous, et évidemment, quand... vous connaissez l'œuvre de René Char. Oui.
Donc, je l'ai rencontré parce que c'est l'époque où René Char ne voulait pas donner ses archives, qui étaient magnifiques, aux archives. De l'Île-sur-la-Sorgue,
oui, il avait des trésors de l'aide, notamment des trésors. Échanges avec Camus, c'est
pas
ça.
Avec Camus, ouais. Enfin, beaucoup d'autres, ouais. toute l'après-guerre. Ouais. Et donc Marie-Claude me demande de venir, et j'ai passé deux après-midi à l'époque avec mon épouse et mes deux enfants, on était souvent dans le Luron à l'époque, à essayer de convaincre Char qu'il pouvait avoir confiance aux institutions en question. Mais il s'en méfiait beaucoup. Il y a des gens qui s'étaient mal conduits pendant la guerre, c'est bon. Donc on a eu des discussions de ça, et j'ai eu quelques contacts avec lui à partir de là. Évidemment, j'en ai profité.
Et oui, vous l'avez longuement questionné donc sur Camus. Qu'est-ce qu'il vous a raconté sur Camus?
Façon d'en parler, c'était, ils étaient fraternels. Il suffit de voir les textes entre eux, les lettres, le visage de Char au moment de l'enterrement de Camus à Lourmarin. Enfin, c'était absolument fondamental. Et après que Camus et loué différentes maisons dans le Luberon, dans le coin. Finalement, il a trouvé une maison à
Lourmarin.
À Lourmarin, qu'il a acheté au docteur Bonneau. Mais donc, Charles l'a conduit là. C'est l'époque où, quand ils sont pas très... Ils s'entendent bien, mais ils sont pas aussi intimes qu'après. Charles Camus lui dit « Aidez-moi à trouver, j'en ai marre de la pègre parisienne. » C'est la pègre intellectuelle.
Hein. Oui, bien sûr.
Pègre. Intellectuel. Donc, aidez-moi à trouver quelque chose. Et on voit bien que le Luberon est quelque chose qui lui rappelle un peu l'Algérois. Et puis, il laisse faire venir sa mère. Enfin, donc, Charles est très lié à ça. Donc, je suis enchanté d'avoir été associé, d'avoir pu échanger avec lui sur ce point.
Oui, on peut dire que Camus y est vraiment senti heureux dans cette région de France.
Dans la région, ouais. Oui, mais dans la maison de Lourmarin, il en a bénéficié que 2 ans. Hein.
Et oui. Ça, c'était la fin.
Et oui, c'était en 58 et 56.
Il y avait, alors, c'est pas le même pays, mais il y avait au moins la lumière, le soleil, la beauté, les saisons, enfin, tout l'ensemble provençal. Quoi,
oui. Je voudrais revenir à la question qu'on posait à Hubert Védrine sur justement un peu d'Uchronie, mais au fond, est-ce que Camus. Je rappelle, mort en janvier 1960, ça veut dire il y a presque 65 ans.
Donc avant l'indépendance de l'Algérie, par exemple.
Donc 7 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Je ne parle pas philosophiquement, parce que Dieu, ce serait une question idiote. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit dans le bouleversement du monde?
D'abord, l'exigence d'éthique sur la langue, on l'a rappelé au début. Il faut nommer les choses justement. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Vous voyez à quel point on doit être malheureux en ce moment. Parce que bon. Donc il y a cet élément-là. Après, chacune des phrases, quand on les réentend, là, que ce soit sa voix à lui, ou Reggiani ou autre, vous voyez bien que ça résonne, même maintenant. Il y a une force incroyable dans la formulation. Donc il y a une sorte de génie de la maîtrise de la langue dépouillée. Après, je suis frappé en lisant de sa distinction permanente. Il est contre l'engagement. C'est pas un écrivain engagé.
Ouais.
Il est contre l'engagement, parce que l'engagement, c'est sartrien.
Mais il était engagé, oui, c'est ça. Ça, c'est par rapport à Sartre.
Oui, mais
il était engagé.
Il dit, on est embarqué. Ouais. On n'a pas le choix. On est embarqué dans notre époque, dans notre temps. Il faut se comporter bien par rapport à ça. Donc, bien on a sûr. Le droit d'être révolté, mais il n'empêche que ça ne justifie pas de n'importe quoi. Donc, un fil conducteur. Mmh. On peut continuer, quelles que soient les époques. Après, donc, comme je l'ai dit, il a écartelé sa mère Algérie. Il n'aurait été mannequin sur rien, à mon avis. Dans tous les grands événements depuis, il n'aurait pas été des gens qui prennent totalement parti pour un camp contre un autre.
Il n'y a pas le cœur du bien et le cœur du mal.
Je peux pas le prouver, hein, ouais, c'est audacieux, mais je crois pas qu'il aurait été comme ça. D'ailleurs, à un moment donné où il commence à être représenté comme moraliste, ou alors il y a la fameuse expression après pour classe terminale, si seulement c'était vrai, on pourrait dire. Si je suis enseigné en classe terminale, ce serait déjà superbe. Quand on le présente comme ça, il réagit contre ça. en disant « oui, mais je ne suis pas comme ça, je suis plus compliqué. J'en ai marre de ce gargarisme moderne. » Gargarisme, c'est tout le côté sur les valeurs, la morale, tout ça. Il est hyper moral, mais en même temps, il ne veut pas être ramené à ça.
C'est ça.
Et il décrit des situations complexes. Ce qui fait que je ne l'imagine pas du tout, moi, encore une fois, n'importe qui peut me démentir, mais,
non, mais
restant dans le débat à Paris, les colloques, les trucs, bon, ça, je ne crois pas. Je l'imagine en ermite de Lourmarin.
Est-ce qu'il était
et recevant à Lourmarin des personnalités, comme Jean Daniel, bien sûr, René Char, c'est son pote, c'est différent. Mais Simon Lest, des gens comme ça, vous voyez, Orwell. Des gens comme ça, c'est ça que j'imagine.
Et vous l'imaginez aussi en écolo convaincu
Alors, il faut faire attention, certainement
oui,
pas le mot écolo.
Oui, écolo, oui, faut faire attention au mot.
Si on enlève du mot écologie le sens écologie politique, oui, d'accord, on peut dire ça, mais c'est pas du tout un écologiste politique. Aucun risque qu'il soit comme ça. Mais il a une telle sensibilité à la beauté.
À la nature, très rare, aux animaux.
À la nature. Ouais. Je cite quelques passages, mais sa façon de parler de la nature, des plantes, des odeurs, de la chaleur, des animaux. Donc je pense qu'il aurait été de plein pied dans l'idée que, quand même, le système hyper-productif incroyable depuis deux siècles a mis en danger la vie sur la planète, quoi. Pas la planète, la vie sur la planète. Donc je crois qu'il aurait été plutôt comme ça. D'ailleurs, je reprends le discours de Suède. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est du moins qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande.
On ne le défasse pas. Ouais, on ne
défasse pas. Bravo. Et donc, je l'applique à ça. Mais c'est une interprétation qui est la mienne. Hein. Mais c'est ce qui me paraît le plus solide, le plus actuel, le plus vivant aujourd'hui, en 2024.
Ouais. Hubert Védrine, par rapport à son œuvre et par rapport à sa vie, puisque vous parlez de ça dans votre livre, on peut dire que c'était quelqu'un de courageux.
Oui.
Ça ne veut pas dire opposé à lâche, hein, mais courageux, ça veut dire qu'il prenait, chaque fois qu'il le pouvait, des positions, etc.
D'abord, je trouve qu'il était courageux de dire ce qu'il a dit sur l'Algérie. Il aurait pu ne pas répondre. Ou trouver une formule en mélangeant les hypothèses. Je ne sais pas comment ça va tourner, il y a plein de scénarios, on verra bien. Bon. Non, il est courageux par rapport à ça. Après, je le trouve... très courageux quand il résiste à la furie sartrienne de l'époque.
En 52, oui.
Sartre est un immense personnage, hein, ouais. Je ne peux pas le diminuer.
Oui, parce qu'il est quasiment seul, en quelque sorte.
C'est ce que c'est ça que je voulais dire.
Ouais.
Mais je dis au passage sur Sartre, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent se trompent.
Oui.
C'est un immense personnage. Si on relit les mots, par exemple, on est ébloui.
Chef-d'œuvre.
Plusieurs préfaces, éblouissant. Il n'empêche que là, il est quand même à la tête d'une espèce de règlement de compte contre Camus. Et Camus résiste. Il est en situation de... Il est menacé d'être cancellé, pour parler des termes contemporains. La cancel culture. À peu près tous les intellectuels qui influencent les médias de l'époque, qui sont beaucoup moins influents qu'aujourd'hui, donc la presse écrite, les éditeurs, la vie intellectuelle dans le 6e arrondissement, etc. Énorme,
Mais justement,
seul,
d'où il a tiré la force à l'époque pour résister à cette cancel culture
De lui-même, de sa nature, de M. Germain.
De ses origines.
La fierté de ses origines, de le fait qu'en fait, fondamentalement, il n'est pas de ce monde-là. Et que quelque part, même si 99% des intellectuels de l'époque lui tapent dessus, il n'est pas du même monde. Donc il n'est pas déstabilisé personnellement. J'essaie de comprendre. Alors, il a, à côté du René Char, donc son pote, il a... il y a Romain Gary.
Gary, ouais.
Qui est un autre personnage inclassable. Et il a Jean Guéhenno.
Ouais, c'est ça.
Ce sont à peu près les seuls qui le défendent.
Oui.
Donc il est en situation de harcèlement par la cancel culture de l'époque.
Oui.
Il résiste, il tient bon. Alors, il a envie de quitter ce monde parisien, d'où le Luberon, du Lille sur la Sorgue, puis... Lourmarin. Et puis il va rester dans le débat, et puis il écrit, il publie le premier homme, il aurait continué à écrire d'autres... Il aurait écrit, hein. Mais je crois qu'il se serait détaché de ce milieu, parce qu'on lui aurait pas pardonné la distinction que je rappelais entre engagement et le fait d'être embarqué.
Et en même, vous en parlez, Bérédrine, ce qui est formidable, parce que ça, c'est le côté politique, et en même temps, toute sa correspondance d'amour avec Maria Cazares est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait ça, il y avait le Camus politique ou le Camus philosophe, et puis la Camus homme.
Bien sûr.
Homme amoureux.
Ben l'homme, c'est d'abord la fidélité au milieu d'origine, hein, la famille. Sans arrêt, il y revient, sa mère, c'est fondamental. Bon, le Camus homme et les femmes. Mais je ne crois pas qu'il aurait été démolissable, si je puis dire, par par un courant féministe à l'américaine.
Oui, vous dites qu'il aurait été étranger au MeToo, au hashtag. Cette ère-là, il n'aurait pas du tout adhéré. Hein.
Parce que, j'en sais rien, mais je pense qu'il n'aurait pas été tellement attaquable. Parce que ce n'est pas du tout un prédateur, en fait. Il n'y a aucune masculinité toxique, je le dis, pour employer les termes d'aujourd'hui, chez lui. Et on voit bien des témoignages de femmes qui l'ont aimé passionnément. Même sa femme, qui pouvait en souffrir, mais il y a quand même des attachements, ça n'a rien à voir avec le prédateur compulsif.
Sud Radio, parlons vrai, l'essentiel en 60 minutes chrono.
Bonne soirée sur Sud Radio, les essentiels de Sud Radio en 60 minutes chrono, à retrouver sur l'application de Sud Radio et sur sudradio.fr. Et tout de suite, nous retrouvons les clés d'une vie avec Jacques Pessis.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne!
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479€, soit 70€ d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3800€.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin.